se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, 68% de remise immédiate sur la deuxième boîte de capsules de lessive Homo 3 en 1.
À 22 centimes la lessive, je veux bien faire celle du voisin.
Eh ben comme ça, tout le monde est content. Auchan, avec plaisir. 11,87€ les deux boîtes de lessive Homo Monoï au lieu de 17,98€. 8,99€ la boîte vendue seule, soit 12,71€ le kilo. Existant d'autres variétés valables sur le moins cher dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Vous écoutez
RMC.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Et on va évidemment beaucoup parler du décès de la reine Elisabeth II dans ce zapping. On va commencer avec un extrait d'Apolline Matin ce matin. La mort d'Elisabeth II vous attriste-t-elle ? Hier, en fin d'après-midi, la reine du Royaume-Uni, après 70 ans de règne, s'est éteinte dans son château de Balmoral. Émotion dans le monde entier, et particulièrement à Londres, où nos reporters ont recueilli les témoignages des habitants.
C'est juste un jour triste pour nous tous et nous n'avons connu qu'une seule reine. C'est une personne que nous avons toujours admirée.
Je n'ai jamais été royaliste, donc je ne sais pas pourquoi je suis autant touchée par sa mort. Je réalise à quel point elle était importante pour notre stabilité.
C'était juste une personne merveilleuse. Mes parents avaient un immense respect pour elle. Elle a promis sa vie pour ce pays. Elle l'a dirigée avec beaucoup de respect.
C'est fou, je ne réalise pas encore, je crois. Je sais qu'elle était très âgée, mais c'est une des choses qu'on imagine ne jamais se produire. Je suis vraiment triste.
Voilà, tristesse à Londres, évidemment, au lendemain de la mort d'Elisabeth II. Est-ce que ce décès vous attriste, Laurent Andrieux ?
Oui, moi ça m'attriste. Ça m'attriste comme m'attriste le décès d'une personne qui a 96 ans et dont on savait évidemment qu'elle n'était pas éternelle. Mais disons que on l'a toujours connue, elle faisait partie de la famille, effectivement. Et puis elle incarne aussi une certaine conception du pouvoir, une certaine conception de la politique qu'on n'est pas sûr de retrouver un jour. C'est-à-dire qu'il y, a une, il y avait effectivement dans sa manière d'exercer sa fonction un esprit de service, un oubli de soi, une dignité que je trouve assez incroyable voilà, qu'on se demande si ces vertus-là ne vont pas disparaître avec elle. Alors on espère les retrouver plus tard avec le prince William, parce que Charles, non, c'est pas que je m'en fous, mais c'est qu'il a été marqué aussi
par
l'évolution un peu people de la monarchie. C'est-à-dire qu'il a eu toutes ces histoires avec Diana et Camilla. Il a pas ce côté effectivement intouchable, icône qu'avait la reine Elisabeth. William, lui, a l'air de vouloir s'en tenir effectivement à une forme de sobriété plus traditionnelle, mais on a l'impression quand même que c'était effectivement un vestige un peu d'une autre époque. Mais moi, cette époque me plaisait bien parce qu'effectivement il y a là-dedans un esprit de service et puis une dignité que je trouve absolument impressionnante.
Alors c'est vrai que ça fait 24 heures à peu près que les chaînes infos en France sont en boucle sur la mort d'Elisabeth II. Alors c'est vrai qu'en Angleterre on comprend, mais est-ce que nous en France on n'en fait pas un peu trop finalement?
Oh là là, mais tellement. J'en peux déjà plus, moi. Je suis déjà fatiguée de ça. Franchement, c'est une dame qui a très bien vécu sa vie, qui en plus a eu un corps en bonne santé jusqu'au bout, qui est mort de sa belle mort. voilà, en plus c'est sans doute pas l'heure des critiques, mais c'est quand même quelqu'un qui a été très très dur. Mais je vais m'arrêter là pour les critiques. Ah non, moi je suis déjà fatiguée ça. Et tu vois, la page historique dont tu parles, je l'entends, Laurent, mais il était peut-être justement temps que ça change. Après, ça arrive peut-être pas au bon moment, parce que l'Angleterre va pas très bien. Instabilité économique hallucinante. Ils viennent de changer de Premier ministre. Ils ont troqué la peste pour le choléra. Là, il y a la reine qui disparaît d'un seul coup. Donc, je comprends que les Anglais, ça rajoute encore au deuil.
Elle avait un travail symbolique.
Mais quand même, elle régnait. C'est plus que symbolique. Elle avait quand même un rôle politique.
Quand la Grande-Bretagne a connu des difficultés, quelles que soient ses difficultés, elle a toujours été là et elle a toujours incarné la stabilité.
Mais
elle a toujours incarné le rassemblement du peuple.
Le repère.
Son
père avant elle. Parce que quand vous voyez par exemple l'excellent film sur Churchill qui s'appelle Les Heures Sombres, vous avez l'impression que Churchill a tenu à lui tout seul sur ses épaules le poids de la résistance à Hitler. Eh ben, il n'aurait pas pu le faire s'il n'avait pas eu le soutien du roi. S'il n'avait pas eu le roi derrière lui, c'était impossible.
Absolument.
Et il y a dans cette, moi, je ne pense pas qu'on en fait trop parce que c'est pas uniquement du people la fascination pour Elisabeth II. Il y a aussi une fascination que nous avons nous Français, qui est un peuple toujours un peu en état de guerre civile, contre une figure monarchique qui incarne
l'unité
nationale au-dessus des divisions politiques.
Il n'est pas aimé lui.
Et au au-dessus des divisions électorales.
Moi, je te rejoins parce que Charles III, il est gaffeur déjà. Il est beaucoup rattaché. En même temps, c'est quelqu'un qu'on a empêché d'épouser la femme qu'il aimait. Donc,
maintenant qu'il aura la couronne, ça va changer.
Voilà, exactement. Voyons ce qu'il donne. Laissons-lui sa chance. Laissons-lui sa chance.
En tout cas, il y a ce côté au-dessus des partis qui l'a aussi.
Ah non, il l'a pas. C'est pas vrai. Il l'a pas.
On parlera de Charles III après.
D'accord.
Daniel, est-ce que ça vous a touché, vous,
ce décès ? Absolument. Oui, absolument. Pour moi, c'est une figure historique. Une personnalité comme ça qui a tout traversé, tout vu, tout connu. Je la voyais un peu comme une sorte de doyenne de notre monde. Et effectivement, ce côté incarnation de la nation, du Royaume-Uni, parce que ça va au-delà de l'Angleterre, c'est le Royaume-Uni et tout le Commonwealth, je trouve que c'est important. Nous, à chaque fois, qu'on le veuille ou non, hein, parce qu'on a beau jouer les républicains toujours en petite rébellion, on est dans le même temps toujours en train de fantasmer sur la figure ou la paternelle ou maternelle. On n'a pas l'homme du siècle. D'ailleurs, à chaque fois qu'un président est élu dans la Ve République, on dit toujours qu'il y a un côté monarchique dans cette Ve République, comme si on rêvait d'un homme au-dessus des partis. D'ailleurs, à chaque fois qu'un président est élu, immédiatement, il dit « Ah, j'aimerais être au-dessus des partis », ce qui est rarement le cas. Mais on fantasme toujours sur, et d'ailleurs, le nom revient sans arrêt, sur le général de Gaulle, qui incarnait un petit peu comme ça une figure tutélaire qui n'existe plus. D'ailleurs, à chaque fois, il y a ceux qui essayent de s'en réclamer. Donc, ça veut dire que, mine de rien, dans un État, c'est quelque chose d'important. Par exemple, je prends un pays que je connais bien en Italie où c'est différent parce qu'il y a le Premier ministre qui exerce le pouvoir et il y a le Président de la République. Eh bien, le Président de la République, il y a ceux qui ont traversé un peu, bah, comme le gars qui inaugure les écoles et les chrysanthèmes, comme on disait à une époque, comme le mec de la 4e République chez nous. Mais il y a eu des figures importantes. Des présidents de la République importants, et l'Italie a toujours aimé se retrouver dans ce président-là. Eh bien, nous, en France, on a eu un petit problème quand même avec ça. C'est pour ça qu'on fantasme toujours sur De Gaulle. Donc, voir disparaître la reine, oui, ça m'a touché, et je comprends l'attachement et l'amour que les Anglais avaient pour leur reine.
Les grandes gueules ce matin, tiens, justement. La France a-t-elle besoin d'un roi ? En Europe, il existe encore 12 monarchies qui jouent un rôle symbolique et représentatif. C'est le cas, par exemple, de la Belgique, de l'Espagne, encore de la Suède. Mais pour l'ex-enseignante Barbara Lefebvre, la question ne se pose pas chez nous, puisque nous avons déjà un président roi. Écoutez.
La France a-t-elle besoin d'un roi, d'un monarque ? Ben là, nous te répondons non, puisqu'il y en a déjà un et qu'effectivement, la République gaulienne est déjà en soi une monarchie. Et d'ailleurs, on pourrait dire que notre dernier roi, c'était De Gaulle. Le problème, il est là aujourd'hui. Non, la France, elle n'a pas besoin d'un roi, puisqu'on en a déjà un. Et en plus, un roitelet, c'est pire encore. C'est-à-dire qu'on a tout l'apparat, mais habillé dans les faux habits de la République, mais tout un apparat monarchique, autour d'un personnage qui en réalité est sacré pendant 5 ans. Donc non, moi je suis pour qu'on abatte véritablement
comme absolu.
Mais je suis comme pour comme Étienne, je suis pour qu'on abatte définitivement la monarchie et ses restes en France.
Ouais, j'ai l'impression que vous êtes scandalisé.
Oui, bah, moi je suis monarchiste, donc moi personnellement je suis pour que.
Il en reste encore alors.
Moi je suis pour que le roi gouverne en plus.
Mais quel roi on aurait en
fait Louis XX Bourbon.
Excusez-moi, on prend qui ? Ah bah non, c'est pas un autre problème.
C'est Louis XX Bourbon l'héritier du trône.
Oui, sauf qu'on n'est pas sûr qu'il soit prêt. Quand le roi arrive, on sait que sa vie a été consacrée à la
monarchie. Je vais te dire un truc. La monarchie, on se fiche qu'il soit prêt ou pas.
Ah non.
Tu peux pas le destituer.
Ça, c'est une mauvaise image. Normalement, on te prépare. Là, en l'occurrence, si demain tu devais aller voir dans la lignée de ceux qui pourraient prétendre au trône, t'es pas sûr qu'il ait été préparé. En Angleterre, on est sûr qu'il y a une énorme préparation. Toute la vie est consacrée à ça.
Alors, je vous laisse terminer, Laurent.
Oui, en tout cas, moi, ça me paraît complètement faux de dire comme Barbara Lefebvre qu'on a un roi, parce que on voit bien que l'onction du suffrage universel n'est pas du tout efficace. C'est-à-dire que vous êtes le président de ceux qui ont voté pour vous et ceux qui n'ont pas voté pour vous, à l'issue d'une campagne électorale qui a souvent été violente, vous détestent.
Absolument.
Et donc, il n'y a pas en France cette incarnation de la nation dans une figure non partisane. C'est pour ça d'ailleurs qu'au début, De Gaulle, qui avait effectivement conçu la constitution de la Ve République comme un truc monarchique, ne voulait pas de l'élection du président au suffrage universel. Parce que d'abord c'était lui, que lui il considérait qu'il avait une légitimité historique, qu'il l'en dispensait.
Il l'a créé pour lui, elle était sur mesure pour lui.
Sauf qu'en fait, comme les suivants ne l'avaient pas, on a bien été obligé d'inventer ce système. Mais du coup, on rentre dans un système partisan où la moitié des Français ou les trois quarts détestent celui qui est censé incarner la nation, ce qui est un vrai problème.
En France, si on avait un roi, ce serait Louis XX Bourbon que j'ai l'occasion de rencontrer et d'interviewer. C'est l'héritier du trône, il n'est pas du tout prêt, il n'a surtout pas du tout envie. C'est quelqu'un qui vit au Venezuela, sa femme est vénézuélienne, il travaille dans une banque, il est numéro 2. Il n'a pas du tout envie. Il a sa petite famille, je crois qu'ils ont trois enfants. Il y a un bébé qui est né il y a quelques années. Il va très bien, il mène sa vie, ça va. Il n'a pas du tout envie.
Mitterrand aussi. Hein,
et, mais... Oui, alors c'est vrai qu'il y a les deux écoles.
Il y a les deux écoles.
Et il y a toujours une frange de royalistes en France qui essaye, qui espère qu'un jour, mais ça n'arrivera jamais, on a coupé la tête du roi.
Et elle est comment la deuxième école, Laurent?
Bah, c'est l'école
orléaniste. C'est les orléanistes.
Ouais. Là, on a un prince tout à fait français qui, lui... Oh.
Je crois que vous êtes fan, là. Je
non,
sens que,
non,
là,
parce que je refuse absolument derrière, de... Non. Moi, je pense que si un jour la monarchie revient, ça se fera avec une nouvelle dynastie, c'est-à-dire qu'elle viendra...
Mais laquelle?
Je vais m'en occuper.
J'ai ma théorie.
Ne bougez pas.
J'ai ma théorie. Elle reviendra. Si elle revient, ce sera forcément à l'issue d'une situation de crise très profonde, où tout simplement, il y aura un moment qui fera comme les Capétiens, il y aura le plus fort du moment, qui tapera sur la table en disant, bah, maintenant, je fais ma dynastie.
Non, mais dites-nous donc qu'on aille googliser quand même.
Non, je sais pas parce que c'est pas pour demain. C'est pas pour demain. Mais en revanche, je pense que l'idée de restaurer les anciennes familles est totalement démente. Ça, pour le coup, ça n'arrivera jamais.
Parce que vous nous avez dit qu'on parlait des Capétiens dans Estelle Midi.
On parle de tout dans Estelle Midi.
Non, mais c'est extraordinaire. Les GG ce matin, la monarchie britannique a-t-elle influencé l'emploi de l'anglais dans le monde? Pendant près de 200 ans, le français était la langue de la diplomatie occidentale et parlé dans le monde entier. La reine Elisabeth II le parlait d'ailleurs parfaitement. Mais force est de constater aujourd'hui que l'emploi de notre langue disparaît peu à peu au profit de l'anglais, comme le rappellent Étienne Lebig et Barbara Lefebvre.
Ça correspond avec l'âge de la reine, c'est-à-dire que ça correspond à un âge où beaucoup de en Espagne, en Italie, au Portugal,
on
en Allemagne, on parlait français. Aujourd'hui, plus personne n'apprend le français parce que tout le monde apprend l'anglais et éventuellement le chinois, mais plus parce que la France ça sert à rien. Et même en Afrique où on nous raconte que dans les écoles on apprend le français, c'est faux. Dans les écoles, la deuxième langue c'est la langue anglaise. Il faut arrêter de se raconter du baratin et accepter une bonne fois pour toutes que la langue internationale aujourd'hui c'est l'anglais.
On
le parle, mais les personnes, mais les jeunes, ils apprennent le français.
Et d'ailleurs, l'influence britannique est intéressante. Le Togo et le Gabon, en juin 2022, ont intégré le Commonwealth. Enfin, c'est intéressant. Le Mozambique et le Rwanda aussi, qui pourtant n'ont jamais été des dominions, n'ont jamais été des colonies.
C'était mieux avant, quoi, Daniel Riolo, finalement.
Mais l'influence de la France est en recul, mais est-ce que c'est une découverte?
Non, mais peut-être s'il y avait le Capétien dont nous parle Laurent Dandrieux, peut-être qu'on y reviendrait. Mais, ça pose problème, ça, pour vous, justement, que le français ait été déclassé, Emmanuel Dancourt?
En fait, ça s'est joué il y a très très longtemps, et ça, on le sait pas forcément. Et si j'avais pas étudié aux États-Unis, je l'aurais jamais su. Mais quand les États-Unis d'Amérique se sont formés, il n'y avait pas encore tout l'Ouest, c'était toute la côte Est. Il y a eu un vote pour savoir si ces pays allaient parler français ou anglais. Et à une voix près, on a perdu les Français et ils ont décidé qu'on parlerait anglais. Et là, on est à la fin du 19e siècle. Ça s'est déjà joué à ce moment-là. Le déclin de la France s'est joué à ce moment-là. Après, le français était la langue diplomatique, mais ça s'est beaucoup perdu parce qu'on a une langue difficile et que le français est une langue facile avec peu de règles. Donc ça s'est perdu au fur et à mesure. Nous, on est en plus très très accrochés à notre langue qu'on n'a pas très très envie de réformer, donc on ne la rend pas accessible aux étrangers. Et au fur et à mesure, après, il y a aussi l'état économique de la France qui a été une puissance mondiale, et dans les études de Ernst & Young, on n'en finit plus de reculer pour les années qui viennent. Il y a même des anciens pays pauvres qui nous passent devant, comme le Brésil. Donc voilà, on est en recul de toute façon sur tout, il n'y a pas de doute. Il n'y a que nous pour croire encore qu'on existe. On ne parle pas de nous dans le monde.
Paradoxalement,
on parle pas de nous dans le monde, je vous assure.
Paradoxalement, les élites italiennes et anglaises parlent beaucoup mieux français que les élites françaises ne parlent l'anglais. Le niveau d'anglais des élites françaises est absolument catastrophique.